Une semaine de plus marquée par la violence de la répression en Syrie. Toujours plus de morts, toujours plus de bombardements, toujours plus d'angoisse parmi la population qui commence à fuir vers le Liban. L'opposition appelle à l'aide, les ONG dénoncent, les journalistes témoignent. Mais la communauté internationale, elle, ne bouge pas. Pourquoi elle n'interviendra pas militairement en Syrie? Écoutez la réponse de Fabrice Balanche, directeur du GREMO, le groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Il n'y aura pas d'intervention étrangère parce que déjà vous avez un double veto russe et chinois qui n'est pas prêt de disparaître. Donc ça bloque quand même une légitimité onusienne pour une intervention étrangère. En 2012, nous sommes dans une année présidentielle, l'élection présidentielle en France, aux États-Unis. Donc là aussi, on ne fait jamais d'intervention militaire en période électorale parce que si c'est un succès, ça ne vous rapportera pas de voix. Si c'est une défaite, ça vous en fera perdre énormément. Donc c'est pas la peine de se risquer dans ce cas-là. Bon, c'est pas du côté des pays arabes du Golfe qu'on peut trouver des forces militaires capables de lancer une intervention en Syrie. Et ensuite, bon, il faut être pragmatique. En Syrie, vous avez peu de pétrole, c'est pas la Libye, c'est pas l'Irak. Donc, quel intérêt pour désarmer, c'est quand même cher, une intervention militaire, donc de s'y risquer. On vient de se retirer d'Irak, c'est pas pour se remettre dans un bourbier syrien. Et puis, bah, vous avez en face une armée qui est unie. C'est pas comme l'armée libyenne qui tout de suite s'est divisée avec des pilotes qui partaient à Malte avec leurs avions, par exemple. C'est pas le cas du tout. Donc, vous avez une armée en face de vous, puissante, qui est capable de répondre.
Pas d'intervention militaire étrangère en vue en Syrie, donc pas comme ce fut le cas en Libye. La Libye, justement, où depuis la chute du régime et la fin de l'opération de l'OTAN, la situation se fait chaque jour plus confuse. Cette semaine, des chefs de milices et de tribus ont déclaré de façon unilatérale l'autonomie de la Cyrénaïque, une région riche en pétrole de l'est du pays. Alors pourquoi faut-il comprendre cette annonce comme un défi lancé au CNT en plein moment de flou? L'analyse de Saïd Haddad, chercheur à l'IREMAM et spécialiste de la Libye.
Cela intervient aussi à un moment où notamment les gens de Benghazi et donc de la Cyrénaïque ont l'impression qu'ils sont délaissés par le nouveau pouvoir. Les gens de la Cyrénaïque, en ce moment, manifestent par cette proclamation leur volonté de faire avancer les choses et que la nouvelle Libye aille plus loin, notamment dans les réformes non seulement institutionnelles à travers la proclamation d'une semi-autonomie, mais aussi plus en profondeur sur le plan économique et sur le plan politique.
Comme si la ville avait été bombardée. C'était à Brazzaville, capitale du Congo, dimanche dernier. Un dépôt de munitions de l'armée prenait feu, de multiples déflagrations dévastaient tout un quartier. Bilan 200 morts, plus de 2300 blessés et 14 000 sans-abri. Une catastrophe nationale. Anissema Konki, responsable de la logistique pour Caritas à Brazzaville, était d'ailleurs encore sous le choc deux jours après, lorsqu'il nous livrait son témoignage.
Le dimanche, il y a eu la panique, les gens fuyaient de partout, surtout la zone nord de Brazzaville. C'était la débandade et certains, ils ont tout perdu. Vraiment, c'est le traumatisme, quoi. Donc, ils n'arrivent pas à expliquer, ils disent que c'est plus que la guerre parce que le secteur est vraiment rasé, il n'y a plus assez de maisons, c'est le traumatisme.
Une région entière dévastée par un tsunami, c'était il y a un an, le 11 mars 2011, de l'autre côté de la planète. Le nord du Japon était frappé par un violent tremblement de terre suivi par une vague géante, une catastrophe qui devait faire plus de 19 000 morts et se doubler d'un accident nucléaire à la centrale de Fukushima. Un ou plutôt des événements qui d'ores et déjà marquent profondément l'histoire du pays. Jean-Marie Bouissou, spécialiste du Japon contemporain.
Les Japonais ont baptisé Fukushima la troisième grande défaite, ce qui montre bien l'importance qu'ils accordent à l'événement. La troisième grande défaite dans l'histoire du Japon, c'est celle qui vient après la défaite de 1945 et après l'irruption des Occidentaux au milieu du 19e siècle. Après chacune de ces grandes défaites, le Japon, à chaque fois, il a rebondi très haut. Est-ce que ça va être la même chose après Fukushima? Ça reste à voir.
Il y a un an, la catastrophe de Fukushima provoquait une onde de choc en Europe, et notamment en France. La France est un des principaux pays européens à avoir misé sur l'énergie nucléaire pour sa production d'électricité. Et la question n'est d'ailleurs pas absente du débat en pleine campagne pour la présidentielle, même si cette semaine, la polémique s'est plutôt concentrée sur d'autres problèmes, et notamment sur celui de la production et de la distribution de viande halal. Les différentes religions se sont retrouvées un peu malgré elles invitées dans le débat. Pourtant, depuis le début de la campagne, les organisations chrétiennes cherchaient à se faire entendre bien différemment, en attirant l'attention des candidats sur d'autres questions. Exemple, la Fondation Abbé Pierre, qui propose un contrat social pour une nouvelle politique du logement. C'est ce que nous expliquait Christophe Robert, il est délégué général adjoint de la Fondation.
on appelle à un dispositif de maîtrise des prix, c'est-à-dire que quand quelqu'un libère un logement qui va être remis à la location sur le marché, eh bien que des contraintes s'imposent pour ne pas l'augmenter de plus de temps, par exemple 1%, 2%, 3% selon les années, pour freiner finalement la flambée des loyers. Et puis, pour la question d'une ville équitable et durable, nous avons déjà une loi en France qui s'appelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose 20% de logements sociaux dans toutes les communes. Et nous appelons les candidats à l'élection présidentielle à se positionner sur une augmentation de ce taux pour passer de 20 à 25% pour accroître l'offre de logements accessibles et de logements sociaux partout sur le territoire. Thank you.